Merci Jean-Haut et bonjour à toutes et à tous. Champion du monde. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, il y a à peu près un mois, l'équipe de France était championne du monde. Alors, le 15 juillet dernier, j'étais de prédication à cette même place, et à l'issue du culte, mon très cher frère Jeff est venu me voir, et il était un peu déçu, et il m'a dit « J'étais persuadé que tu allais parler aujourd'hui de l'équipe de France de foot. » Alors je lui ai dit « Mais j'ai même pas pensé. » Franchement, je n'ai même pas pensé un seul instant. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il y avait là un très bon sujet à creuser. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce matin le message « L'équipe de France de foot 2018 à l'image de l'Église ». Bon, alors qu'on soit bien clair, hein, l'équipe de France de foot, c'est ni l'Église de Dieu, ni même sa représentation éloignée dans le monde, hein. Ne sortez pas du culte en disant que Daniel nous a dit que l'équipe de France, c'était l'Église, hein, d'accord? Parce que là, je serais mal. Pourtant, à travers son épopée européenne, jusqu'au beau titre de championne du monde en Russie, eh bien, on peut trouver des ressemblances, des analogies, des comparaisons qui peuvent nous faire mieux comprendre ce qu'est la véritable Église de Dieu. Alors, vous savez que dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, on retrouve sous forme de courtes paraboles ces relations étroites entre la vie courante et le royaume de Dieu. Hein, par exemple, le royaume de Dieu, dit Jésus, il est semblable à un semeur, Matthieu 13, 24, à un grain de sénévé, Matthieu 13, 31, Luc 13, 19, à du levain, 13, 21, à un trésor, verset 45, à une perle, et verset 47, à un filet. Puis, il y en a bien d'autres. Hein. Aussi, pour notre identification, Jésus propose cette comparaison, Jean 15. « Je suis le vrai cep, dit Jésus, mon père est le vigneron, et vous, vous êtes les sarments. Hein, » Donc, vous voyez ces comparaisons avec des choses de la vie courante. Et puis, l'analogie, selon l'apôtre Paul, Éphésiens 5, « Christ est le chef de l'Église. » C'est l'analogie avec le mari qui aime son épouse et la chérie comme son propre corps, qui est l'Église. Hein, vous voyez la représentation. Alors, l'Église, une équipe d'appelés. Vous savez qu'en France, il y a des millions de personnes qui jouent chaque dimanche au foot, à tous les niveaux. Et s'ils sont français, ils peuvent être appelés en équipe de France. Vous vous rendez compte? Ce sont potentiellement tous les joueurs qui sont aptes à être appelés. Si vous êtes français et que vous jouez au foot, vous pouvez aller en équipe de France. Mais en réalité, pour constituer son équipe, son groupe, eh bien Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, va appeler 23 joueurs qui répondent aux critères demandés par le sélectionneur lui-même. Donc lui, il a ses propres critères, hein, qu'on ne connaît pas forcément. Et spirituellement, eh bien nous faisons partie d'un monde pécheur qui est voué à la perdition. Nous sommes toutes et tous potentiellement en situation d'être appelés par Dieu pour faire partie de son peuple, de son Église. Et il veut constituer une équipe de sauvés pour son royaume. Alors, comme pour l'équipe de France, il y a beaucoup d'appelés, hein, c'est-à-dire beaucoup. C'est ce qu'affirme Jésus. Le terme « beaucoup », qui est assez vague, il est précisé aussi par ce passage de 1 Timothée 2,4. On va comprendre ce que ça veut dire « beaucoup ». Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. C'est tous. Beaucoup, ça veut dire tous. Soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes sont potentiellement appelés pour être sauvés. Si tous sont appelés, alors pourquoi tous n'entrent-ils pas? Comme Didier Deschamps met des critères d'entrée, ce qui fait que peu répondent à ses exigences. Hein, par exemple, Didier Deschamps, bah, lui, ses critères, on ne les connaît pas vraiment, mais on en reparlera un petit peu après. Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors pourquoi certains appelés répondent et pas d'autres? Cela reste un mystère qui appartient à Dieu. Toujours est-il que celles et ceux qui répondent, eh bien, on arrive à une équipe resserrée en nombre à laquelle Jésus donne un très joli nom. Vous savez comment il les appelle ? Comment ? Petit troupeau, oui. Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau. » Voilà. Nous, notre équipe, qui est très resserrée, c'est le petit troupeau. « Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Nous sommes le petit troupeau, l'Église de Dieu, que le Seigneur va utiliser pour sa gloire. En réalité, et c'est ce qui est le plus surprenant, c'est que ce ne sont pas toujours les meilleurs joueurs qui sont sélectionnés. Par exemple, beaucoup ont considéré Benzema comme bien meilleur que Giroud. Et puis les absences de Ribéry et Rabiot comme de graves anomalies en équipe de France. Tous ces joueurs qui évoluent dans de grands clubs n'entraient pas dans les critères du sélectionneur. Alors j'entends souvent dire que dans ce monde, certaines personnes sont bien meilleures et se comportent mieux que des chrétiens. Bon, c'est déjà aussi une anomalie, ça. Alors, moi je me pose toujours la question, pourquoi ces personnes qui se comportent mieux que des chrétiens ne sont-elles pas chrétiennes ? Elles ne le sont pas car elles ne veulent pas entrer dans les critères que Dieu a imposés. L'Église est l'espérance. Lorsque Didier Deschamps a constitué son groupe, son équipe, son objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde et la gagner. Et je vous pose ce matin la question, y a-t-il une équipe nationale qui se rende à la Coupe du Monde pour ne pas la gagner ? En disant... Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas possible, je ne veux pas la gagner. Quoi. C'est pas concevable. Certes, certains pays savent qu'ils ont peu de chances de réussir, mais je suis certain que tous y vont pour la remporter. Moi, j'ai un jeune à Flavigny, ça fait un an, il me dit, Daniel, l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Ah, il dit, Pierre, t'as vu comment il joue ? Et puis en plus, franchement, t'as l'Espagne, t'as l'Allemagne, t'as le Brésil. Hein, Pierre ? Non, on va gagner la Coupe du Monde. Bon, ben là, on l'a gagné, quoi. Maintenant, mais est-ce qu'on a la foi comme ce garçon ? Lui, il était certain, persuadé que l'équipe de France allait gagner la Coupe du Monde. Pour nous qui avons été appelés, il y a une belle et réelle espérance qui s'attache à cet appel. Avant d'être appelés, nous étions sans espérance dans ce monde inondé de ténèbres. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, notre espérance réside en Christ, 1 Timothée 1:1. Alors, quelle est cette espérance ? Pour l'équipe de France, c'était de gagner la Coupe du Monde. Pour nous, c'est la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Tite 1, verset 2. Cette vie éternelle, et c'est extraordinaire, nous la possédons en espérance, nous l'avons, avant même de la vivre, car nous nous appuyons sur la promesse de celui qui ne ment point. Jean 11, 25, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Et vous, est-ce que vous le croyez ? Nous avons la vie éternelle. Comme chaque joueur de l'équipe de France vient en Russie et est convaincu qu'il va remporter le trophée, nous croyons en espérance, avec une foi ferme, que nous avons par Christ la vie éternelle. Amen. Amen. Alors l'Église, son but suprême, tout faire pour gagner, tout faire pour gagner. L'équipe de France vient avec l'espérance de gagner le Graal, le titre suprême. Pourtant l'espérance et la foi ne suffisent pas pour triompher. Il ne suffit pas de venir en disant on va la gagner. Imaginez une équipe qui vienne à la Coupe du Monde en disant on va la gagner, mais qui ne fasse aucune préparation sérieuse, qui ne se batte pas sur le terrain, elle serait forcément en très grand danger. Je rappelle quand même qu'aucune équipe championne du monde en titre n'a depuis 1998 passé le premier tour. Peut-être par trop d'assurance et pas assez de travail. L'apôtre Paul, lui, nous donne trois conseils pour gagner, pour aller jusqu'au bout. C'est 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Alors nous avons pris l'exemple de la Coupe du Monde de football, mais Paul, lui, prend l'exemple de deux événements sportifs de son époque. C'était les Jeux Olympiques et les Jeux Isthmiques, qui se passaient près de Corinthe. Alors les participants à ces Jeux, comme les joueurs de l'équipe de France, devaient suivre un entraînement très très rigoureux. Pour les Grecs, c'était 10 mois. Vous vous rendez compte, pendant 10 mois, ils bossaient ferme. Et le dernier mois, ils s'entraînaient quotidiennement sous la surveillance d'un maître. Le chrétien doit être vraiment persévérant. Il doit tout faire pour gagner sa place dans l'équipe. Le sportif travaille chaque jour sa technique, sa condition physique. Le chrétien, lui, doit travailler sa spiritualité dans une relation quotidienne avec Dieu, dans la recherche de sa volonté. Quotidienne. Et puis 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, c'est-à-dire la vie éternelle. Beaucoup de sportifs, et bien sûr les plus jeunes, vous vous rendez compte, hein, imaginez, 20 ans, 19 ans, eh bien ils renoncent pour gagner un titre à ce qui fait la joie et le bonheur des jeunes de leur âge. Hein, ils suivent des régimes alimentaires stricts, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas des bonnes choses. Enfin si, ils mangent des bonnes choses, mais pas, ils ne vont pas peut-être au McDo, des choses comme ça. Ils ne sortent pas en boîte de nuit, ils vont se coucher tôt, ils renoncent à beaucoup de plaisir. Et pourquoi? Pourquoi tout cela? Eh bien pour gagner une couronne, un titre, un trophée. Vous vous rendez compte les efforts qu'ils font pour gagner un titre? Eh bien le chrétien qui veut grandir, qui veut mûrir en Christ et triompher doit lutter contre les exigences de sa nature charnelle. Vous savez, la chair, elle ne cesse d'exiger ses droits. Elle dit « Je veux, il me faut, j'exige, j'ai besoin ». L'esprit invite chaque chrétien à s'abstenir des querelles. Proverbe 20, verset 3. Des souillures des idoles, acte 15, 20. De l'impudicité, 1 Thessaloniciens 4, 3. De toute espèce de mal, 5, 22. Et des convoitises charnelles, 1 Pierre 2, 11. Alors, lorsque la chair, elle dit oui, il faut souvent que le chrétien sache dire non. Alors, dire non, c'est pas facile, hein, des fois. Et puis, en Corinthiens 9, 26, la suite. « Moi donc, dit Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Alors nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On l'a dit, hein, quand la chair dit oui, je veux, l'esprit dit souvent non. Alors pour remporter un titre, il faut se fixer un objectif, mais aussi faire preuve de discipline. On ne part pas, comme dit Paul, à l'aventure, hein, n'importe où, n'importe comment, ou en blabla, en battant l'air. Il est bon que le chrétien travaille sérieusement à son salut, en renonçant déjà à lui-même, c'est-à-dire à ses propres désirs, à ses propres ambitions, à sa propre volonté, pour se laisser envahir par les pensées profondes de Dieu, car vos pensées, dit Dieu, Ésaïe 55, 8, ne sont pas mes pensées. Voilà, les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Alors, tout cela ne peut pas se faire seul, il faut de l'aide. Cela se fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, avec le soutien de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous savons de comment nous abstenir des choses. Les sportifs, ceux de l'équipe de France, s'engagent dans une discipline nécessaire à leur réussite. Sans discipline, ben, il n'y a rien qui est possible. Spirituellement, le disciple, hein, on est tous des disciples, hein, le disciple est celui qui discipline sa vie pour suivre le Christ. La discipline fait appel aussi à la volonté, et surtout à la volonté. Je veux suivre Christ, je le veux, mais aussi à l'endurance, à la persévérance. Vous savez, on ne s'engage pas avec Dieu pour quelques temps, mais pour aller au bout, vraiment au bout du bout. Imaginez les joueurs de l'équipe de France dire notre objectif final, c'est le premier match contre l'Australie. Voilà. Si on arrive à battre l'Australie, on sera content. Ben, c'est pas ça. Le but ultime, c'est la finale, c'est la gagner, la remporter. Le chrétien doit durer dans le temps. C'est vrai qu'il y aura des moments difficiles, des découragements profonds, mais cette volonté d'aller jusqu'au bout avec Dieu. À titre individuel, chacun devrait s'imposer ce schéma de vie. Comme Paul, lui, court pour gagner le premier prix, alors il ne le fait pas pour lâcher les autres, les distancer, les humilier, mais pour être un exemple à suivre. Tous ensemble, nous devons persévérer pour aller jusqu'au bout. Alors, écoutez plutôt la promesse que fait Jésus à chacune des sept églises de l'Apocalypse. Éphèse 2, verset 7. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est le paradis de Dieu. » Smyrne, c'est Apocalypse 2, 11. « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » À Pergame, la troisième église, Apocalypse 2, 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » À la quatrième église, Thyatire, Apocalypse 2, 26. « À celui qui vaincra, qui ira jusqu'au bout et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. » À la cinquième église, Sardes, Apocalypse 3, 5. « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » À Philadelphie, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » La Odyssée, la septième église, Apocalypse 3, 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » À celui qui vaincra. Au niveau individuel, nous sommes toutes et tous, chacune, chacun, responsables devant Dieu pour nous-mêmes. Alors, imaginez Giroud, l'avant-centre de l'équipe de France, il n'a marqué aucun but pendant la Coupe du Monde. Vous imaginez qu'il dise à Griezmann, « C'est ta faute si je ne suis pas en forme, c'est ta faute si je ne marque pas de but. » De même, Mbappé ne peut pas dire à Paul Pogba, « Tu es responsable si je fais une mauvaise passe. » Eh bien, c'est dans ce sens de responsabilité que l'apôtre Paul dit qu'il court personnellement pour remporter le premier prix. Il veut être au top devant Dieu pour entraîner l'Église à sa suite. Et pour ça, on va parler aussi de l'entraide spirituelle. Vous savez, personnellement, moi je me dis toujours, à quoi bon me sert-il de gagner la course si mes sœurs et frères de l'Église ne suivent pas? Je pense que nous devrions toutes et tous nous poser cette question. Notre responsabilité est donc à la fois individuelle, on ne peut pas accuser les autres, l'Église, de ces faillites individuelles. Moi, je ne peux pas dire, si je ne lis pas ma Bible tous les matins, c'est la faute à Jean-Haut. Ah ouais, il a qu'à s'occuper de moi. Je dois travailler à mon salut avec Dieu. Mais notre responsabilité est aussi collective. Si un joueur de l'équipe de France joue très bien, mais il est tout seul, il fera perdre l'équipe car il oublie le collectif. Voilà, je vais vous donner un petit témoignage personnel. C'est au début de ma vie chrétienne, j'ai clairement eu cette vision de l'Église. Franchement. Il y avait... C'est un petit peu, je ne sais pas s'il y a le dessin derrière. Voilà, c'est le suivant. Il y avait un chemin étroit et tortueux qui partait de la terre et montait vers les cieux. Sur ce chemin étaient engagées des personnes, l'Église. Il y avait des soldats, il y avait des jeunes, des personnes âgées, des femmes enceintes, des malades et des enfants. Et la lumière de Dieu éclairait ce sentier et tout le monde avançait à la vitesse des plus faibles, en s'entraidant, en se soutenant et en franchissant tous les obstacles ensemble. tous les obstacles que l'ennemi avait jetés sur le passage. Voilà, tous ensemble, unis. L'Église, c'est aussi une équipe qui se bâtit sur la diversité. Quand Didier Deschamps appelle des joueurs pour former l'équipe de France, il ne dit pas « Tiens, je vais prendre tant de blancs, tant de joueurs d'origine africaine. » Non, il prend les meilleurs qui entrent dans ses critères. Et malgré tout ça, eh bien, c'est ainsi que l'équipe de France 1998 est devenue « Black, Blanc, Beurre » et qu'elle a gardé cette originalité en 2018. Hein, on retrouve toujours les mêmes cultures. L'Église, de même, accueille tous les appelés, quelle que soit leur race, leur origine sociale et culturelle, leur orientation sexuelle. Contrairement au monde, aux yeux de Dieu, une personne noire a-t-elle moins de valeur qu'une personne blanche? Un handicapé qu'un valide, un chômeur moins qu'un ingénieur ou un médecin? On voit aussi qu'une équipe de foot est composée de 11 postes différents. Le goal n'est pas un arrière. Il utilise ses mains alors que l'arrière défend, l'arrière central court moins qu'un milieu de terrain. L'ailier n'est pas un avant-centre. Chacun a sa place, a sa spécificité. Et bien dans l'Église, c'est pareil. De même, chacun a reçu des dons différents ou parfois même semblables, mais chacun doit trouver sa place. Il n'y a pas de concurrence ou de rivalité à avoir. Tous les dons sont apportés et mis au service des autres, ce qui ouvre sur l'unité. Oui, deuxièmement, l'unité. Une équipe qui ne compte que sur quelques individualités pour gagner ne va pas loin en Coupe du Monde. Ah, on l'a vu, hein. C'est le cas par exemple de Ronaldo pour le Portugal. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et le Portugal a été éliminé. Et Messi avec l'Argentine. Pareil, c'est le meilleur joueur du monde. Mais il est seul. Un joueur ne fait pas une équipe. Une équipe se doit d'être unie dans l'entraide et le soutien. On vient aider une sœur ou un frère qui est dans la difficulté. Celui qui est dans la difficulté ne doit pas non plus critiquer celui qui vient l'aider. Une équipe divisée est une équipe qui ne peut pas gagner. Ça, c'est sûr, on ne peut pas aller au bout. Matthieu 12, 25. « Toute maison divisée, dit Jésus, ne peut subsister. Si l'Église subsiste, c'est parce qu'elle est unie. » Didier Deschamps, nous l'avons vu, n'a pas pris les meilleurs joueurs pour la Coupe du Monde. Alors, il a pris dans son équipe les meilleurs joueurs ayant une très bonne mentalité sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire et dans leur vie quotidienne. Il s'est ainsi passé de Ribéry, de Benzema et d'autres qui étaient présents quelques années auparavant en Afrique du Sud et qui avaient participé à la grève de Nesma. Dans l'Église, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de conflits non réglés, de racines d'amertume qui viennent briser l'unité fraternelle. Et puis, troisièmement, l'Église est bâtie sur la fidélité. Lorsque Didier Deschamps a constitué son équipe, eh bien, il reste fidèle à ses joueurs. Il appelle généralement pendant 4 ans les mêmes. Les joueurs appelés restent eux-mêmes fidèles à l'équipe de France, en s'entretenant, se rendant disponibles et donnant le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe. Et spirituellement, lorsque Dieu nous a appelés, eh bien, il reste fidèle envers nous à son appel. Et nous-mêmes restons fidèles à l'appel de Dieu. Hébreux 10, 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'Église est aussi une équipe qui doit lutter. L'équipe de France, comme toutes les équipes, a dû lutter contre les coups durs. Les blessures de Koscielny, par exemple, et Dimitri Payet, la méforme de certains joueurs, les suspensions. Parfois, les équipes ont raté leur Coupe du Monde parce qu'elles n'ont pas su gérer une absence. Et c'est le cas de l'équipe de France 2002, qui n'a pas su gérer la blessure de Zidane et s'est fait éliminer dès le premier tour. L'Église de même traverse forcément des épreuves et elle souffre. Ce sont les maladies, les décès, les persécutions, les divisions, les péchés. La Bible dit, 1 Pierre 5,12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. On est tous ensemble pour supporter les épreuves. Comme Christ, lors de son ministère terrestre, tout chrétien, et donc l'Église, va forcément passer par des épreuves qui ne doivent pas nous freiner, ni nous décourager dans notre marche vers le but. Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Enfin, l'Église est une équipe dirigée, organisée. L'équipe de France s'est donné toutes les chances pour réussir. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé, mais de magnifiques hôtels, un staff technique, un sélectionneur, des kinés, des médecins, des diététiciens, un cadre idéal. Ils ont tout reçu. Dieu a donné à l'Église et à chaque chrétien tous les moyens pour réussir. Regardez ce beau bâtiment qu'on a. La Bible, les dons des bergers, des pasteurs, des conseillers, des responsables, et surtout Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Chacun doit jouer son rôle. L'Église est une équipe qui doit aussi se renouveler. Toutes les équipes nationales doivent renouveler leur effectif. Celles qui ne le font pas ou ne l'ont pas fait prennent des risques d'être éliminées de la Coupe du Monde. Et c'est le cas de l'Espagne et de l'Allemagne qui ont gardé la même équipe depuis 4 ans. L'Église va s'appuyer sur l'expérience des plus anciens tout en assurant une place aux jeunes, en s'ouvrant aux plus jeunes. Alors là, on peut trouver 2 inconvénients. Les anciens qui ne veulent pas incorporer les jeunes, ça peut arriver, hein. Ah non, pas de jeunes dans l'équipe. Hein. Et qui n'ouvrent ainsi pas l'Église. L'Église n'est pas ouverte aux plus jeunes. Et ça, c'est dommage. Et puis aussi, il y a les jeunes qui ne prennent pas leur place. Ah ben non, moi, je suis jeune, moi, je ne veux pas rentrer dans les responsabilités de l'Église. Ou alors, qui méprisent les plus anciens. Hein, c'est des pépés. Souvenez-vous du chant « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Voilà, ensemble. Et puis, là je voudrais terminer là-dessus, après leur victoire en Coupe du Monde le 15 juillet, les joueurs de l'équipe de France se sont rendus dans leur ville de naissance pour rendre hommage à leurs supporters. L'Église est reconnaissante à Dieu, à Christ, de l'avoir appelé « sauvé et béni ». Et je voudrais raconter 2 petites anecdotes, mais vraiment qui m'ont fait pleurer, franchement. Comment dire, j'ai 2 filles, enfin, non, j'en ai 3. J'ai 3 filles, non, c'est pas que je m'en souviens, mais j'ai 3 filles, mais j'en ai 2 qui passent des examens. J'ai Alicia qui passe pour être professeur des écoles. Donc, bien sûr, mes filles, ce n'est pas des génies comme leur père. On n'est pas vraiment des génies. Bon, alors, quand Alicia, elle va à son examen, bah, toute la famille prie. Et elle dit, papa, c'est pas possible. On a prié, et je m'appelle Courtin, je me suis marié, je m'appelle Carloni, donc en 1C, je passe la première. Oh, J'ai pas le temps de réviser, j'ai rien le temps de... Elle va à l'examen, elle se fait démonter par l'examinatrice. Elle revient, elle dit, papa, 8. 8 maximum. Et, alors, je lui dis, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'examinatrice m'a démonté, mais complètement, elle m'a presque... des choses ignobles. Bon, elle dit, en tant que chrétienne, j'ai répondu gentiment, sagement, etc. Elle revient et elle va voir ses notes, 18. 18. Mais alors, on a pensé que c'est vrai qu'elle a essayé de la démonter et qu'elle n'a pas réussi et que grâce à Dieu, eh ben, elle a réussi. Alors la deuxième, encore pire. Julia, elle vient me voir, elle dit « j'ai un examen sur la surdité ». J'y comprends rien. Tu veux pas m'expliquer? Ben moi, je dis, voilà, franchement, moi, c'est encore pire. Puis j'ai arrêté les études, ça fait quand même 40 ans. Je dis, je regarde sur Internet, essaie de bosser, fais quelque chose. Donc elle me dit, franchement, il faudrait que j'aie 9, mais je sais pas comment je vais faire. Puis en plus, je passe la première. Non, mais vous voyez quand même, c'est incroyable. Enfin, je passe la première. Ben, je dis, ouais, mais peut-être que Dieu a quelque chose pour toi. Donc, Wardia et Julia ont jeûné. Moi, c'est pas mon truc de jeûner, parce que... bon, voilà. Mais quand même, vraiment, avec larmes, moi, je prie le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, humainement, c'est impossible qu'elle réussisse. Impossible. Franchement, elle sait rien. Hein, elle a bossé, regarde, elle a bossé, elle connaît certaines choses, mais elle ne va pas tomber dessus. Je lui dis, fais quelque chose pour elle. Elle passe, elle m'appelle Papa 18. 18, plus que tous les autres. Alors vous savez ce qui s'est passé? Le prof, il est arrivé, il a dit, oh mince, j'ai oublié mes questions. Il avait oublié les questions à la maison. Exceptionnel, hein. Ben, il dit, puisque j'ai oublié mes questions, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu veux être interrogé? Donc, elle lui a dit ce qu'elle savait, et elle lui a mis 18. Comment vous voulez ne pas être reconnaissant au Seigneur? Comment vous voulez qu'on dise au Seigneur, ben ouais, c'est normal, mes filles ont bossé, c'est des génies, etc. Non, on a eu 18 parce que le Seigneur était là. Voilà, une église reconnaissante, c'est une église qui sait reconnaître que nous, on n'est pas grand-chose, et que le Seigneur, il est capable de faire pour nous les choses qu'on n'arrive pas à faire. Et moi, j'ai vraiment envie de dire merci Seigneur, quoi. Voilà. Bon, il faut continuer à prier pour Julia, parce qu'il y a encore la dictée qu'elle n'arrive pas à faire. Et on va y arriver grâce à Dieu. Voilà, j'ai prié, et remettre vraiment ce moment au Seigneur. Seigneur, merci, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais pour notre Église. Merci pour ce que tu fais individuellement pour chacun, pour les bontés que tu accordes. Vraiment, Seigneur, tu es notre Dieu. C'est vrai, on passe par des épreuves, on passe par des moments difficiles, il ne faut pas se le cacher, il y a des coups durs. Mais toi, Seigneur, tu nous portes. Tu nous portes dans les moments difficiles. Tu nous encourages, Seigneur, quand tout va mal. Et tu nous soutiens, tu nous bénis, Seigneur, dans notre vie quotidienne. Merci, mon Dieu, de bénir encore notre Église, de bénir Gaïané, de bénir Léa, de bénir tous ceux qui œuvrent pour ta gloire. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci.